On est de retour dans la deuxième partie du podcast Culture. Cette fois-ci, on va parler un peu de cinéma et de séries. Sur cette partie, je pense qu'on aura, pour commencer le cinéma, on aura Ronald et Malik.
Ouais.
Et moi-même.
C'est toujours là.
Ronald.
Alors, juste par rapport au cinéma 2017, donc moi j'ai fait beaucoup mon pirate. J'ai vu beaucoup de films chez moi au calme, au chaud.
Rapi.
Et
t'as pas de carte UGC, crevard.
C'est exactement ça. Et du coup, j'ai regardé beaucoup de films et il y en a trois qui m'ont marqué. Et donc, parmi ces trois films, t'as The Big Sick, écrit par Kunal Nanjiani. Donc c'est le gars que vous connaissez peut-être par le biais de Silicon Valley, la série qui traite un peu d'une start-up qui veut percer à la Silicon Valley. Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'un gars qui issu de l'immigration, qui est d'origine pakistanaise aux États-Unis et qui veut être comédien. Il se raconte un peu son parcours, ses relations tumultueuses avec ses parents qui sont encore avec une culture très 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 très, très blédarde et son rapport à la culture américaine, aux femmes américaines. Et c'est un super film pour toi qui te poses des questions d'identitaire. Ce mec traite de ce sujet-là et de belle manière.
Il rentrerait parfaitement dans ce qu'est un caméléon, en fait, non ?
Ouais, c'est ça. Je me suis rendu compte que ma sélection, un peu, enfin, surtout ouais, par rapport à ce film, ouais, c'est un caméléon, ce gars-là, parce que justement, il se positionne un peu entre les deux. Quand il était chez lui, il parle en ourdou, qui est l'équivalent du hindi pour les Pakistanais. Et quand il sort dehors, il parle en américain. Et quand il est à la maison, sa mère lui présente des filles pour que, en lui faisant, à chaque fois, c'est un traquenard, elle lui présente des filles en faisant croire qu'elles sont passées au hasard. Et quand il est dehors, il faut qu'il explique aux gens que voilà, il est dans la séduction, il a envie de
il a envie de pécho.
Il a envie de pécho, quoi. Voilà, c'est ça.
Il veut la blonde.
Ah, justement. Et du coup, là, c'est un film un peu autobiographique parce qu'il a été écrit par lui et sa femme qui raconte leur histoire, parce qu'il est marié avec une américaine. Ouais. Voilà, super film.
Pour ma part, un des films que j'ai vraiment aimé cette année. Je vais parler d'un film français qui était grand public, même si c'est pas trop ce que je regarde d'habitude, c'est Passion, de Grand Corps Malade. C'est un film qui retrace un peu je sais pas si c'est vraiment une autobiographie, il y a peut-être, enfin je sais pas si c'est à 100% autobiographique, mais en gros c'est l'histoire de Grand Corps Malade, comment il est devenu, comment il a eu son handicap, ce qui lui est arrivé, comment il a vécu sa rééducation, et j'ai vraiment aimé ce film parce qu'en fait, t'as pas envie de t'apitoyer sur son sort. C'est pas un film qui traite de l'handicap avec pitié, j'ai envie de dire. C'est vraiment un film qui te fait rire, en fait. Bizarrement, t'es même pas mal à l'aise avec,
ouais, c'est pas un film où
avec le handicap.
T'es forcément tu relativises.
C'est pas un film Téléthon, quoi, tu vois. C'est un film. Enfin, j'ai rien contre Téléthon, mais c'est bien d'avoir des films comme ça. Et puis, au-delà du film, de la réalisation, il y a une bande-son qui est juste ouf.
Qui tue.
Avec, je crois que t'as Lunatic, t'as The Roots,
NTM,
enfin t'as une bande son qui est ouf. Donc,
c'est un film réalisé par Grand Corps Malade.
C'est ça, ouais.
Écrit, ouais, je crois.
Écrit par Grand Corps Malade, mais c'est pas lui qui le réalise.
C'est pas lui qui le réalise. C'est fait.
Ouais, c'est écrit par lui et c'est pas lui qui le réalise.
Et le gars qui joue l'acteur qui joue le Grand Corps Malade, c'est un mec que j'avais déjà vu dans une web série.
Ah, c'est Polo.
Oui, c'est Polo. Ouais.
Polo dans les Lascars. D'ailleurs, on attend la saison 3. Hein.
Ouais.
C'est Polo dans les Lascars et c'est aussi un mec qui joue dans En Passant Pécho. C'est une autre série qui passe, enfin, une série Canal qui est faite par, je crois, le fils de François Hollande, un truc de ouf, hein, qui parle de Bicrave. les liens sont faciles dans la
Thomas,
vie, apparemment. Et ouais, ce gars, je trouve qu'il était très bon dans le film. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce film, c'est l'humanité qui file aux handicapés, parce qu'en gros,
c'est que tu vois que les mecs,
ils sont comme tout le monde, en fait.
Bah bien sûr, c'est qu'en fait, on a tendance à voir des films et des émissions où bah l'handicapé, tu le mets dans une case, et bah là, en fait. Limite.
Ça serait comme intouchable. Pas de bras, pas
c'est Sofiane là qui s'incruste.
Pas de chocolat. Ouais, je m'incruste. C'est vrai que vous êtes
beaucoup. Non, il s'est pas présenté.
Bonjour, je m'appelle Sofiane.
Non, mais... je trouve que c'est moins qu'intouchable parce qu'intouchable, enfin.
Intouchable, c'est cliché, mec.
C'est cliché un peu.
Intouchable, c'est complètement
la
cliché.
La passion.
Oui, non, mais.
Intouchable, il a été écrit par des mecs qui veulent faire du cinéma qui remplit un cahier des charges.
Non, mais bon, ils ont quand même fait des films marrants, ces mecs dont tu parles. Tellement proches et. Et le jour zéro, c'est quand même des classiques.
Ouais, mais ils ont quand même réussi à.
Ah ouais, j'aime pas trop les bons sentiments à outrance, mais.
Ouais, parce que non, mais après, ce qu'ils ont fait, si tu vas parler d'eux, c'est quoi? C'est Olivier Nakache et.
Leonardo.
On fait une petite parenthèse, les films qu'ils avaient fait avant, c'était pas des films qui étaient dans la lignée intouchable. Enfin,
Oui, mais clairement, c'est plus des trucs. Bon, t'avais Omar Sy qui revenait assez souvent, mais c'était des trucs plutôt de la comédie, etc. Et là, oui, je suis d'accord avec toi sur l'histoire du cahier des charges, mais c'est. Bon, après, sur le coup, moi, j'avais apprécié un peu comme
tout le monde.
Comme tout le monde. Mais c'est vrai que.
Moi, ça dégouline, mais.
Oui, clairement. Je pense qu'ils ont, joué beaucoup de codes, mais c'était pas forcément leur fait d'armes de base, quoi.
Il y a une école, hein. Il y a une école de ces gars-là maintenant.
Mais après, on va dire, pour revenir sur Passion, ce qui fait la force du film, c'est le fait que ce soit le regard d'une personne qui est passée par un handicap, qui l'a écrit. C'est ça qui
oui,
c'est
ça.
Ça qui fait la différence.
Mais en fait, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai vu ce film-là, ok, t'as le décor, t'as l'hôpital, t'as les fauteuils roulants, t'as tout ça, mais limite, t'oublies que les mecs, ils sont handicapés, quoi, pendant le film. Enfin...
Ouais, tu vis avec eux leurs aventures et leurs souffrances.
Ouais, voilà, c'est
et
ça.
C'est un film humain, mais sans rentrer dans tout ce qui est dégoulinant, en fait.
D'ailleurs, j'ai bien aimé le personnage de... C'est quoi son nom, déjà ? Son pote, là, qui est en fauteuil roulant depuis qu'il a 6 ans, là.
Exactement, ouais.
Je trouve qu'il rafraîchit pas mal le film. Et,
clairement, ouais, je suis d'accord.
Après, je vais juste faire un petit... pour finir, moi, sur ma partie cinéma... parler rapidement de deux films. Je vais parler de Florida Project de Sean Baker, en fait, qui est avec William Dafoe, qui nous raconte un peu l'envers du décor de Disney World avec les banlieues qu'on a autour et les gens qui habitent dans les motels, qui habitent dans les voitures. C'est dit comme ça, ça vend pas trop du rêve, mais c'est un film que je vous conseille avec la prestation de. En gros, c'est l'histoire d'une petite qui vit avec sa mère dans un motel et on voit comment elle se débrouille pour survivre dans ce monde-là. C'est l'Amérique en crise, en fait.
Moi, j'ai été le voir. Il est un peu dur, quand même, ce film. Parce que moi, je m'attendais à un Château de ma mère version...
Non, il est dur, mais... Moi, je me suis... Enfin, je sais pas pourtant, moi, je me suis pas ennuyé pendant ce film, en fait. Pas... Alors qu'il se passe rien.
Il se passe rien, mais ouais, le film, il est prenant.
C'est une satire, en fait. Prenant. C'est une satire un peu sociale.
Et le rôle de la...
De comment dans un monde où on te vend Monts et Merveilles, surtout c'est Disney, en fait.
Bah, en fait, je vais juste pour faire un petit focus là-dessus. T'as une scène où eux, ils habitent dans un motel un peu pourri. Un motel qui ressemble un peu à un hôtel que j'avais fait à Los Angeles avec certains caméléons autour de la table. Ils sont dans un motel un peu bidon. Et à un moment, il y a un couple qui arrive en lune de miel et qui sont trompés, quoi. Ils ont voulu prendre un hôtel à Disney World, ils ont pris cet hôtel-là, et pour eux, c'est inimaginable de dormir là-dedans. Donc, tu sais, c'est pour te donner la séparation entre les deux. Et le dernier film dont je voulais parler, c'est Le Caire Confidentiel. Je crois que Bondaka, il a aussi beaucoup aimé ce film-là. Bah, je te laisse en parler, d'ailleurs.
Le Caire Confidentiel, c'est un film un peu sur la révolution
égyptienne,
en 2011, non?
C'est ça.
Et en fait, c'est un drame policier qu'on suit. C'est l'histoire d'une chanteuse qui se fait assassiner. Et on voit un peu les luttes de pouvoir au sein de la société égyptienne. Et...
Bon, en fait, on voit tous les barrages que peut avoir face à eux. Ouais. Les policiers qui veulent vraiment faire leur taf.
Ouais,
quoi.
Vraiment faire leur taf. Et voilà. On essaie de le.
Tu vis un peu la révolution arabe en Égypte à ce moment-là, quoi.
Ouais, voilà, à travers le film, tu sais. Ça décrit un peu la société à ce moment-là.
Je sais pas pour toi, mais moi, le personnage principal, je savais pas trop comment me positionner face à lui. Il y a des fois, tu te dis, mais quel connard. Des fois, tu te dis, putain, mais.
En fait, c'est ça qui est génial avec le film, parce que à la fois, c'est un connard, tu vois. C'est un vrai, parce qu'il commence vraiment le film comme un connard. C'est un mec qui. C'est un policier de base.
C'est un policier véreux.
Qui tabasse les gens. Qui se fait corrompre et compagnie. Et petit à petit, tu le vois évoluer dans le film.
Il y a une humanité dans le fond dans toute cette saloperie, une humanité.
Ouais, voilà. Okay. Derrière tout ça, derrière la brute, tu vois, tu découvres.
D'ailleurs, petit aparté, moi je suis personnellement fan de tout ce qui touche un peu au Maghreb, au monde arabe, enfin tous les bouquins et films qui parlent un peu de justement de tout ça, lutte des pouvoirs dans ces pays-là. Et ce film, il est un peu mettre en relation avec un bouquin d'Ala El-Asnaoui qui s'appelle L'immeuble Yacoubian. Donc c'est voilà petit aparté où en gros on voit la vie des Égyptiens avec plusieurs personnages dans un bâtiment entre le personnage qui se débrouille, le nouveau riche, la noblesse déchue, le mec qui veut être policier et qui a plein de plein d'obstacles pour le devenir. Enfin voilà, c'est.
Ouais, d'ailleurs, ils en ont fait un film au cinéma avec un grand
que
acteur.
Pas vu d'ailleurs.
C'est ça. Avec l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma et du théâtre égyptien, qui est Adel Imam. Et effectivement, ça retranscrit bien le livre dont tu avais parlé. Toute l'histoire se passe dans l'immeuble. Tu vois un peu. Enfin, c'est un peu comme la espèce de petite série sur TF1, là, Immeuble Voisin ou Les Voisins. Je sais
c'est un peu une mosaïque de la société concentrée dans un immeuble.
Exactement. Ouais. Et c'est super intéressant et drôle à la fois parce que ça amène un peu des scènes un peu burlesques et c'est vraiment un film à regarder aussi, ouais.
Et comme on est des caméléons, qu'on a multiples cultures, pareil. Moi, j'ai eu un fanat de la culture. De ce grand pays qu'est l'Inde, un grand pays de fous. Et du coup, je vais essayer de vous parler de films Bollywood qui m'ont marqué. Et l'année dernière, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Uttar Punjab d'Abhishek Chaubé. Donc, c'est un film qui raconte le business de la dope au Punjab, un des plus grands états indiens. Clairement, c'est un sujet qui est important parce que Malik peut-être l'ignore, mais dans cette zone du monde, en fait, on a les plus gros producteurs d'héroïne au monde, notamment par l'Afghanistan.
Il y a des effets spéciaux dans ton film.
L'Afghanistan, ouais.
Ouais, l'Afghanistan.
Pas vous.
Et en fait, ils sont vérolés par cette dope au Punjab. Le film est cool parce qu'en fait, il traite avec différents personnages, comme un film de Tarantino. Différents personnages.
Quoi, t'as des séquences par personnage.
En fait, t'as des séquences par personnage et chaque personnage a une implication particulière par rapport au business de dope. Et dans la société indienne, t'as des gens extrêmement corrompus et dans ce film, il ne ménage pas ces gens-là. Donc c'est un film qui a été censuré en Inde. C'est un film qui fait réfléchir et c'est un film qui est cool parce que le gars le traite avec un certain recul. Donc voilà, c'est un film à regarder et c'est un film qui m'a marqué.
Et pour ceux qui veulent le voir et qui comprennent pas la langue, on peut le voir en sous-titré anglais.
Ouais, en naviguant dans les eaux troubles, certes, mais quand même.
Toi, tu l'avais regardé en VO ?
Ouais, non, en fait, quand le dialecte est utilisé, c'est un dialecte Punjab et moi, j'y comprends strictement rien. Parce qu'on a un milliard de dialectes chez nous, on en a 42.
Mais est-ce que tu maîtrises même ton propre dialecte?
Ouais, parce qu'on se souvient de toi essayant de marmonner quelques mots
en tamoul.
Tamoul, c'était mais pas terrible, tu vois. Non,
je tiens à préciser que le tamoul est une langue qui est multimillénaire et dont l'aspect littéraire biblique me dépasse. Mais voilà, un film à regarder, même si on vous vend un Bollywood sucré où il y a des scènes d'action à la con, il y a des vrais films, et parmi ces films-là, vous avez ce film qui s'appelle Uttar Punjab, donc allez le regarder. Le dernier film dont je voulais vous parler, je crois que Bondaka, tu l'as vu aussi, c'est Good Time. Good Time, donc...
Des frères Safdie, excellent.
Et c'est un peu... un film coup de poing, quoi. Donc tu regardes ce film, t'es pas à l'aise dans ton siège. C'est la descente en enfer en fait d'un mec
celui dont le frère est handicapé, c'est ça?
Exactement, un braqueur à la petite semaine qui amène son frère avec lui dans ses histoires de braquage. Son frère tombe, donc son frère est handicapé, va en prison et donc Robert Pattinson qui joue l'aîné va tout faire pour essayer de récupérer son frère.
Faut juste dire qu'il est excellent dans ce film.
Ouais, franchement,
il m'a bluffé.
C'était une des raisons qui m'ont poussé à regarder ce film parce que j'avais vu des critiques et disaient qu'enfin ce gars il commençait à avoir une carrière qui a un sens.
Oui. Carrément, là il se détache de son image.
De jeune premier beau gosse, quoi. Et dans ce film, il te met mal à l'aise ce gars, tu vois. Il y a des scènes où t'es là, t'es dans ton écran, tu dis mais pourquoi? Pourquoi tu t'en arrives là?
T'es pas bien, tu vois.
Exactement. Et du coup, là, c'est un film qui m'a marqué, un film à regarder, pas trop pour les âmes sensibles, parce qu'il y a des scènes qui sont très dures. Et voilà, donc l'année cinéma 2017, elle a été vaste, faire un choix, c'était très dur.
Moi, j'aimerais ajouter un film que j'ai regardé, mais du coup, c'est un peu, c'est pas du tout du 2017, c'est carrément un peu ancien, il date de 2002.
Fais-toi plaisir.
Non, mais en fait, c'était.
La collectionneuse
Ou la cambrioleuse.
Ou la cambrioleuse.
non, c'était pour aller encore un peu.
De Clara Morgan, d'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant.
C'est exactement.
À regarder.
Ouais, l'un des rares films de Clara Morgan. Mais en fait, c'est pour aller encore plus à l'est que l'Inde. Tout à l'heure, c'est un film que j'ai regardé en 2002, qui s'appelle 2009 Lost Memories, qui est un film à la fois sud-coréano-japonais. Et en fait, c'est un film uchronique, c'est-à-dire le scénario repose sur une réécriture de l'histoire. Et l'histoire se passe dans un monde où le Japon, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a, en fait, au lieu d'être avec l'Axe, s'est retrouvé avec les Alliés et du coup il a gagné la Deuxième Guerre mondiale et a conservé toutes ses colonies. Et l'histoire se passe en 2002
où la Corée... Tu peux te rappeler les pays dont le Japon était...
Exactement, je vais y venir. Mais du coup, justement, en fait, le Japon a conservé toutes ses colonies, dont la Corée, une partie de la Chine et les Philippines. Et c'est un excellent film, quoi. Et c'est vraiment un film à regarder qu'en fait, les Japonais et les Sud-Coréens se rendent compte que finalement, ouais, c'est pas bien ce truc-là. Et puis ils repartent dans le passé pour tuer le mec qui a réécrit l'histoire à la base.
Bah, on va finir sur le cinéma. On peut pas finir l'année 2017 sans parler de Gala Out.
Mais oui. Vu par certains comme une comédie.
juste pour faire mon Bernard Pivot du game. Juste pour rappel, Get Out, c'est fait par Jordan Peele. Jordan Peele, c'est un membre du duo Key & Peele. Donc c'est des comédiens qui font des sketchs que je vous conseille sur YouTube. Ils sont gratuits et c'est des tueries. Et dans chacun de ces sketchs, Jordan Peele, il joue toujours un personnage qui te met mal à l'aise. Et tu retrouves cet humour un peu dark et sombre dans Get Out, qui est un film dur, mais qui te fait quand même marrer.
Pour revenir sur ce que dit Malik, je pense que les gens en France, je pense que le film il a été mal compris. Il n'a pas du tout été compris, je pense, par le public français, parce que ça rigolait. Et justement, il y a une fin alternative. Je ne sais pas si vous avez vu la fin alternative.
Non, je ne l'ai pas vu.
En fait, la fin alternative, c'est que quand la voiture de police arrive, on va spoiler un peu, c'est pas son pote qui descend, c'est un policier lambda qui descend. Et il se fait arrêter, il finit en prison. Et je pense que cette fin, s'il l'avait gardée, je pense que ça aurait fait plus un choc aux gens. Ça aurait rappelé le message, en tout cas en France, je pense que le message n'a pas été bien compris. Ça aurait apporté le message qu'il a voulu faire transmettre.
Mais cette fin, elle est sortie en salle ou c'est...
Non, elle n'est pas sortie en salle. On l'a vu sur Internet, elle a été diffusée sur Internet.
Ouais, mais le parti pris de mettre son pote qui travaille pour TSC, donc son pote, c'est le ressort comique du film.
Ouais, bah justement, c'est pour faire une fin soft.
C'est le mec qui te file.
Il a une tête à s'appeler Kevin, je sais pas pourquoi.
Il a une tête à s'appeler Kevin, en plus de ça, il est tellement bon dans son délire où il est persuadé d'être un bon détective parce qu'il fait partie des TSC et que même les flics ne l'écoutent pas alors que lui connaît la vérité. Je trouve que ce personnage est bien écrit, il est cool. Et c'est ce qui dédramatise un peu tout le dark de ce film.
En fait. Clairement, à chaque fois que le mec il fait une apparition, la salle rigole, quoi.
Mais oui, c'est ça.
Il y a pas une apparition où tu rigoles pas, quoi.
Alors que moi, je pense que le film, le postulat,
je pense qu'on parle pas assez de lui en plus quand on parle de ce film.
Non, c'est vrai.
Je pense que
il m'a marqué plus que les autres. Hein.
Il porte plus le film que Daniel Kaluuya qu'on voit beaucoup à l'écran. Ouais. Et lui, quand il arrive, il apporte quelque chose immédiatement à chaque fois.
D'ailleurs, pour ma part, je l'ai vu un peu comme une comédie, mais c'était aussi dû à la salle. MK2 bibliothèque pour ne pas la citer où je vais spoiler un peu parce que fallait le voir hein, sinon tant pis hein, mais
spoil c'est 3 mois max voilà. après on balance tout
nous rien à foutre hein. Fallait prendre une carte UGC comme tout le monde mais à chaque fois que le personnage principal démontait la gueule d'un mec t'as toute la salle t'as l'impression que il y avait un but de Neymar quoi donc c'était vraiment c'était à vivre en fait, c'était pas à voir sur canapé, c'était à voir au cinéma ce film-là.
A posteriori, c'est quand même fou de te rendre compte que malgré les sujets traités qui sont durs, le film est autant marché. Il a quand même marché du tonnerre aux États-Unis, il a eu une belle réussite internationale et tu te rends compte qu'en fait les gens quand même ils sont prêts à avoir du contenu qui sont. C'est politisé, je trouve, un peu quand même.
Littéralement politisé. Ouais.
Et les gens adhèrent au concept, tu vois, c'est quand même fou. Et c'est rafraîchissant en vérité.
Ouais,
parce que c'est un ovni un peu.
C'est un ovni, c'est une surprise totale. C'est un film qui a été fait avec un petit budget.
Ça me donne envie de le revoir ce soir.
Ouais. En parlant comme ça.
Je suis en train de repenser à la
scène. On va arrêter le podcast, les gars. On va aller le regarder.
Je l'ai en 1080p. Hein. Je suis en train de repenser à la scène où le mec découvre que la fille avec qui il est, en fait, elle est sortie qu'avec des blacks.
Elle est mythique.
Un grand musclé.
Quand il y a la gouvernante de la maison, elle a une photo avec elle et tout.
C'est complètement ça, elle est mythique.
Et du coup, ouais. Get Out, tuerie.
Grosse tuerie. On va passer sur la suite, on va passer sur les séries. Je pense que là, on va accueillir de nouvelles personnes. Seb qui revient.
Je suis là.
Il était pas parti, il était pas trop loin.
C'était pas trop loin.
On a aussi Jeff qui revient, qui arrive sur ce podcast.
Qui arrive, ouais.
Et Sofiane
qui est là, qui squatte.
Ouais, c'est ça.
Il y a des choses qui lui passent par la tête, il balance.
Ouais, voilà.
On va... 2002.
C'est ça, dans, le, dans la rubrique film de l'année de 2017. Hein, mais,
Il va nous parler des séries de 89.
Ouais, exactement, ouais. Je vous laisse.
Les séries, bon, on va commencer par Jeff.
Ouais, alors, donc moi j'ai une série qui date pas de 2017, mais qui a commencé en 2016.
Ouais.
C'est Stranger Things. Ouais. Une des grosses surprises de Netflix. Parmi sa sélection, donc c'est une série qui se passe dans l'univers des années 80. C'est un mélange, enfin c'est une série qui est une série de science-fiction et qui, je trouve, se marie bien avec l'univers 80, avec une bonne musique, de beaux décors et qui accompagne bien les aventures des personnages auxquels on s'attache et qui sont aussi intrigants.
Moi aussi, Stranger Things a été dans ma liste. J'ai commencé la saison 1 et la saison 2 en même temps, quasiment j'ai enchaîné. Et c'est vrai que c'est une série qui est très plaisante à regarder, c'est sympa. Comment l'expliquer ? T'as l'impression, c'est comme quand on était un peu enfant, tu te fais des histoires et eux, t'as l'impression qu'ils vivent ces histoires dans la vraie vie. Ça ouais. leur arrive et ce qui fait que c'est très rafraîchissant à regarder.
C'est tout à fait ça, ouais.
Je sais pas si d'autres personnes autour de la table ont regardé. Non, vous avez pas
non,
Netflix.
Non, moi je l'ai pas. Moi j'ai Netflix, mais j'ai pas encore regardé. Mais c'est vrai que c'est sur la liste des choses que j'ai à voir.
On vous le conseille.
Donc, je vais faire comme toi. Du coup, je pense que je vais enchaîner les deux.
Faut enchaîner.
Ouais.
Surtout que la prochaine saison elle sort
en 2019, je crois.
2019.
Ouais, 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 va falloir attendre de rattraper le retard.
Ouais, sur Netflix, j'ai regardé pendant la période de chômage, j'ai regardé un milliard de séries sur Netflix à un tel point où j'ai fait overdose et j'ai abandonné le truc. Et parmi les séries que j'ai regardées, il y en a une qui m'a un peu surpris, c'est Travelers, Les Voyageurs du Temps en français. C'est une série qui est assez intéressante en fait. C'est des voyageurs qui viennent du futur et pour arriver dans le futur, ils prennent le corps d'une personne qui existe dans le présent et la personne du coup meurt. Et elle devient son hôte. Et bon, c'est comme toutes les séries assez classiques. Hein. T'as des gentils qui viennent du futur, il y a les méchants qui viennent du futur, et puis ils se tapent dans le présent. C'est des confréries. C'est pas mal à regarder. Il y a assez d'action et les gens sont. C'est assez vivant, quoi. Mais sans plus. C'est une bonne série à regarder quand tu. Que je conseille. Si t'es au chômage, regardez toutes les séries Netflix.
Si t'as du temps,
c'est ça.
Tu peux regarder Travelers.
Exactement. Et c'est pas mal. Il y aura une saison 2 et 3 bientôt aussi. Donc c'est vraiment à regarder.
On est très Netflix là. Ça se voit, on veut des abonnements gratuits aussi.
Ouais.
On veut tout gratter aujourd'hui.
Ouais. Et moi, je veux continuer justement dans le Netflix. Je vais parler de Nola Darling. Donc c'est un. En fait, le titre de la série, c'est Nola Darling n'en fait qu'à sa tête. Donc, c'est une série qui est adaptée d'un film de Spike Lee. Donc, Spike Lee
un classique de Spike Lee.
Un classique de Spike Lee. Là, c'est Spike Lee encore qui réalise le tout. Et en fait, on suit le quotidien d'une artiste afro-américaine qui vit à Brooklyn et qui, en fait, partage sa vie amoureuse et sexuelle surtout. Avec trois hommes. Donc, un qui fait beaucoup penser au personnage de Spike Lee dans les pubs de Jordan. Donc,
Justement, ouais. C'était de ce film. Après, c'est devenu un peu son alter ego.
Exactement.
Après,
donc, l'alter ego de Spike Lee, donc Mars Black Moon. On suit aussi... Donc, ça, c'est le premier individu qui est un fan de basket et collectionneur de basket. Qui là dans la série
il te parle
qui me parle et qui est un fanatique absolu de Jordan et qui là est latino. On a un photographe beau gosse métis français américain et on a un homme
totalement narcissique
totalement narcissique.
Non, mais assez, le mec c'est un couteau suisse là, c'est
assez fou. Et qui on va le dire, hein, qui baise un peu tout ce qui bouge et très charmeur.
C'est
et on a
couteau suisse.
Un couteau suisse, exactement. Un vrai de vrai.
T'as le mec qui touche à tout, quoi. Il est tout à la fois pour viser large et se taper tout ce qui bouge.
Et
sans pitié.
Et le troisième personnage, c'est un mec des Projects qui a réussi, donc qui a quoi, une quarantaine d'années, je pense, qui a une famille, donc une femme et un fils, et du coup qui dans son mariage ça va plus et qui tombe amoureux, on peut dire ça, de Nola. Et donc on suit Nola dans ses déboires autour de, parce qu'elle est artiste, autour de faire des œuvres, vendre ses œuvres, et on suit aussi tout son groupe d'amis, dont une de ses meilleures amies qui elle est omnubilée par son fessier, qui souhaite le refaire, et on suit aussi tout ça et les conséquences.
Et d'ailleurs, pour les amateurs de hip-hop, il y a Fat Joe dans cette série.
Et il y a Fat Joe qui joue un mec qui tient une boîte strip club. Et du coup voilà. Donc moi j'ai pas mal aimé la série. Et je crois que d'ailleurs sur ça, Bouhéman, on n'est pas trop d'accord.
On n'est pas d'accord.
Parce qu'en fait j'ai revécu un peu, j'ai re-ressenti, on sent la patte de Spike Lee dans le cadrage, dans tous les trucs. La façon dont c'est, le storytelling aussi, la façon dont, les messages aussi, beaucoup les messages. Et du coup moi c'est une très belle claque que j'ai pris, ouais.
Moi justement, moi c'est ça le problème, c'est qu'on sent trop la patte Spike Lee. Et j'ai l'impression que la série, elle est limite datée, alors qu'elle est sortie cette année, tu vois.
Ouais. Mais surtout.
C'est ça que je ressens un peu dans la série, tu vois.
Et moi, ce qui fait qu'on est actuellement dans la période qu'on vit, c'est les problématiques, en fait.
Ouais.
Le fait qu'elle soit que ça soit une meuf, quel est ce problème de le rapport avec les hommes dans la rue, le fait qu'on la drague un peu. On a un des premiers épisodes qui tourne autour de ça.
Ça rejoint carrément l'actualité, tu vois.
Ouais. Donc, la problématique de sa copine qui se fait refaire les fesses pour avoir plus d'argent, pour se sentir plus belle. Et du coup, moi je pense qu'il y a d'autres problématiques aussi, le fait qu'elle soit entre
génération Instagram, tu vois.
Ouais, exactement.
C'est à cause des mecs comme Ronald qui like que des gros fessiers.
Là, si t'en as
à partager.
Et donc voilà, moi c'est aussi le fait que ça se passe à New York, donc il y a tout ce truc là qui est assez plaisant.
La manière de filmer New York, ouais. Spike Lee qui filme toujours très bien, c'est super beau à voir.
Voilà, donc
ça me fait aussi penser à notre série Girls.
Ouais.
De la manière de filmer New York un peu.
Sinon il y a Luke Cage aussi où New York est très bien fait. Enfin la série est plus hein, mais
ouais, la série elle est...
non elle est plus, mais ils ont une bonne bande son et les images elles sont pas mal.
C'est l'ambiance de la série générale qui est pas mal, mais la série en tout cas j'ai pas
aimé. Non non ça pue.
Mais d'ailleurs New York tu l'as aussi dans bien filmé dans Master of None.
Ah bah, oui, si on doit parler de
The Series dans l'absolu, je trouve que donc la saison 2, elle est moins cool que la saison 1 qui est sortie en 2015.
2015 la saison 1, la saison 2 2017.
Pour un petit rappel, Master of None, c'est un peu les tribulations d'un trentenaire issu de l'immigration aux États-Unis. Ouais. Et donc la star en question, c'est Aziz Ansari.
Ouais, et très important aussi le rôle de son meilleur ami.
Ouais, son meilleur ami, ouais, c'est...
Qu'on cite pas trop souvent, mais qui... Alors que c'est un rôle assez important et assez drôle, et je trouve que ils forment bien le dynamique duo de buddies qui sont à la recherche de
du love et du plaisir, en fait.
Du love et du plaisir, ouais.
Et du coup, bah, cette série, en fait, elle se concentre sur les différents événements qui lui arrivent à Aziz Ansari, parce qu'au-delà d'être un jouisseur, c'est aussi un inspirant acteur.
Ouais.
Et du coup, on découvre un peu sa vie. Et ce qui est cool dans cette série, c'est que ça ne se concentre pas uniquement sur les aspects différents de sa vie, mais aussi c'est par épisode des thématiques différentes qui vont être traitées.
Exactement.
T'as notamment donc son rapport à ses parents.
Ouais.
Qui fait l'objet d'un épisode qui est très 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 beau.
Moi, je pense que c'est un des meilleurs épisodes.
Ouais, moi aussi, franchement, ouais, je...
Le coming out d'une de ses amies aussi.
Exactement,
dans la série,
ouais.
Qui fait l'objet d'un.
Et là, ça rejoint un peu Nola Darling, qui est, on ne l'a pas dit, qui est bisexuel dans la série. C'est
aussi.
Je pense que c'est une partie. On est le moins important dans cette série.
Elle aussi elle est avec des grosses fesses sur Instagram, alors.
Hein,
elle aussi, elle est avec des grosses fesses
sur Instagram. Il y a
moyen. C'était quoi la série où. Quand elle fait son coming out, à un moment, elle a une copine qui est sur Instagram.
Elle a un pseudo. Oui, exactement. Oui. Sur Instagram. Oui, sur le canapé, juste après le dîner de Thanksgiving, elle est sur Instagram. Ouais.
Et quand il demande plusieurs fois le nom de
son. Ouais, le pseudo qui refuse de lui donner.
Cette partie,
elle est magique. C'est vrai qu'elle est magique aussi.
Elle est magnifique, tu vois.
Et du coup, ouais, bah, pareil, dans Master of None, il traite de sujets qui sont, on va dire, peu évoqués dans les séries populaires américaines.
Bien sûr,
ouais. Et c'est une série qui est plutôt cool. C'est très stylé, je trouve, en termes d'image, de musique. C'est très cool. Ensuite, je trouve que artistiquement, Aziz Ansari, il représente quelque chose d'intéressant aux États-Unis.
Ouais.
C'est un caméléon, c'est un mec qui sait tout faire. Il est comédien à la base, mais comédien au stand-up du comédien. Il faisait des stand-up il y a quelques années qui, moi, m'ont fait rire. Ouais. Alors, je trouve qu'ils sont moins cool que certains autres artistes, mais c'était marrant quand même.
Ouais, bien sûr, moi j'ai adoré aussi.
Il avait aussi écrit un livre sur les romances aujourd'hui, dans les années 2000, on va dire, 2010.
Ouais. Parce que bon, en ce moment, c'est pas le mec le plus romantique du monde, hein.
Mais en fait, j'ai envie de dire,
on valide pas ça. On valide pas trop ce qu'il a fait récemment.
Pas ce mais le cordonnier est toujours le plus mal chaussé.
Oui. En l'occurrence, il est mal chaussé pour des années, là, je pense.
On peut le rappeler et je trouve que c'est à rappeler, c'est que un mec comme Aziz Ansari, un autre mec comme Eddie Wang, qui, dans un registre un peu d'immigré, qui raconte un peu sa vie, comment il voit les choses dans l'Amérique, qu'il accepte et dans laquelle il s'intègre, ben pour moi ces gars-là, c'est un peu des caméléons, c'est des mecs qui m'ont inspiré dans la conception du projet et clairement les livres qu'ils ont écrits, donc t'as dit, Aziz Ansari, son livre est très intéressant parce qu'il expose pas uniquement les relations amoureuses, mais aussi plein de choses qui sont en rapport avec ta vie, toi, de mec qui nous écoute et qui va sur internet et qui fait des choix. Il t'expose.
Les tribulations d'un jeune adulte.
Ouais, c'est ça.
C'est exactement ça, ouais.
Et Eddie Wang, pareil. Bon, Eddie Wang, le personnage, c'est un mec qui travaille pour Vice, qui fait des émissions de bouffe,
ouais.
Qui a son propre restaurant, mais qu'à la base, il est avocat. Donc, il a tout plaqué pour ses passions.
Ouais.
Et ça, forcément, ça doit te parler, mec.
Ouais, moi, ça me parle bien. Ça me parle beaucoup.
Et ça doit te parler. Et du coup, bah, voilà, pareil, ses livres sont cool. T'as Fresh Off the Boat, son premier livre,
ouais.
et Double Cup of Love, qui sont sortis aussi l'année dernière, qui sont dans le même registre que Aziz Ansari, c'est-à-dire des mecs qui se posent des questions, et probablement les mêmes que les tiennes, mais leurs réponses peuvent être intéressantes.
Et ce qui est cool aussi beaucoup, c'est que vu que c'est des mecs qui ont grandi avec les mêmes choses que nous, qui ont les mêmes codes, le message est, je dis pas qu'il est plus facile à comprendre, mais
ça te parle.
Les références, on les connaît.
Bah oui, c'est ça.
Et du coup, on sent vraiment que voilà, ces mecs-là, inconsciemment, vont avoir un rôle à jouer pour les générations à venir.
Et c'est ça, exactement.
Je pense, après, bon, c'est une petite aparté qu'on fait là, et je pense que c'est des rôles modèles qu'on n'a pas forcément en France. Ouais. Donc voilà, nous, on est
toujours un peu en retard en France, on est toujours obligé d'aller chercher ailleurs.
Exactement.
On n'est jamais les premiers sur un truc.
Non, mais tu blagues, mais ce que tu dis là, c'est fou, c'est une des raisons pour lesquelles on a brainstormé, on s'est lancé, c'est que c'est vrai qu'aux États-Unis, t'as de plus en plus de films où le héros principal, c'est pas. On va dire le mot, c'est pas un blanc.
Ouais, bien
c'est
sûr.
C'est pas un blanc. Et c'est ni un Renoir, ni. C'est. T'as des mecs marrons. Ouais.
Et surtout, ce truc, c'est qu'on leur donne la chance de faire ces films-là. C'est... Alors qu'en France, ils ont jamais les moyens.
Mais plus, c'est des
clichés.
Mais
faut pas oublier que, apparemment, il me semblait avoir vu un truc aux États-Unis où là maintenant, les blancs sont plus la majorité de la population. En fait, si tu prends en considération toutes
non,
les.
C'est la majorité absolue, mais.
Ah, moi, il me semblait que c'était le cas.
Si tu prends.
Ouais, voilà.
Si tu prends toutes les populations.
Exactement, voilà, c'est ça. C'est
qu'ils doivent être genre 49% et le reste 51%.
Ouais, un truc dans genre, si tu prends les Afro-Américains, les Mexicains, les machins, enfin tous avec en opposition avec les blancs, bah ils sont pas,
mais est-ce que c'est la seule raison qui fait que là-bas t'as plus de
non, déjà il y a les contacts,
pas la raison à ce moment valeur en termes,
c'est pas comme en France,
pas statistique, tu vois,
c'est pas statistique,
c'est juste qu'on laisse, on peut, pour eux ils peuvent concevoir que tu peux être indien et tu peux ne pas être un taxi. Tu peux ne pas être uniquement.
Ça rejoint ce qu'on disait quand on a présenté le projet. C'est-à-dire que nous, pourquoi on a fait ce projet, après on reviendra sur les séries, mais pourquoi on a fait ce projet, c'est parce que on avait marre de voir des. Quand on voyait des gens de banlieue, c'était des. des footballeurs ou des dealers ou des rappeurs, enfin c'est ça en fait.
Et juste pour revenir, moi je pense à, c'est aussi la façon dont s'est construit ce pays là, parce qu'on parle des États-Unis pour refaire le parallèle du coup, et c'est aussi dû au fait que voilà, ils ont une vision très business du truc.
Mais c'est marrant, tu vois, qu'on arrive à ces réflexions et que dans sa série Aziz Ansari, il fasse un épisode où clairement il dénonce la représentativité des Indiens dans le cinéma et dans les médias.
Ouais,
il a un épisode qui consacre justement.
C'est quand il fait les castings.
Ouais, c'est ça, quand il fait les castings et qu'on lui demande de faire le rôle du taxi.
On lui demande de faire l'accent.
Toi,
ouais, c'est... exactement, on lui demande de faire l'accent.
Et du coup, bah, t'as une tribune pour pouvoir déjà critiquer tout ça. Et c'est déjà en soi une victoire, quelque part.
Ouais, clairement, ouais.
Clairement.
Et du coup, voilà, Master of None, c'est une bonne série, je pense. Par contre, la saison 2, voilà, est un peu décevante parce que sa construction tourne autour de son histoire d'amour.
Un peu trop romantique, mais. Ouais,
après, l'italienne, elle fait rêver, normal, mais bon, c'est dommage que.
Ouais, non, mais l'histoire d'amour, moi, je trouve qu'elle a plombé la série.
Ouais, je suis assez d'accord.
Ça reste une excellente saison, quand même, tu vois.
Oui, il y a des épisodes qui sont fulgurants.
Bah, I Love New York, c'est ça ?
New York.
C'est peut-être le meilleur.
On est obligé d'en parler un peu.
Genre. Ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur avec la partie muette où t'as pas de son et tu suis un couple.
Quand la partie muette elle arrive, tu crois que ta télé est bug.
Ouais, exact.
Tu cherches ta télécommande.
Le dialogue qu'ils ont, le couple mixte dans le magasin, c'est pas un dialogue que tu dois regarder devant tes parents. Hein, parce, ouais. Parce qu'on est dans du Skyrock D-Fool là. Belle école d'ailleurs.
D-Fool, si tu nous écoutes.
Je pense que Bonaka, tu penses qu'on devrait switcher sur ce qu'on attend 2018 en termes de série.
Ouais. Je vais parler de une série que j'ai regardée en 2017, mais dont j'attends la saison 2, c'est Guyane. Parce que personne n'a parlé des séries françaises, notamment celle de Canal+. Moi, comme je pense Bondaka autour de la table, on est des fans de ces séries-là.
J'en ai beaucoup regardé, mais j'ai plus d'abonnement Canal+.
Ah bah je te passerai mes codes. Si
Canal+, vous nous entendez ?
Envoyez des abonnements.
Vincent, je veux bien des codes, s'il te plaît.
Je te passerai mes codes, si tu veux. Non, mais plus sérieusement, Guyane, c'est une série que moi, j'ai bien aimée. C'est en gros l'histoire d'un jeune étudiant, je crois qu'il est aux Mines de Paris, qui, on sait pas trop pourquoi, est au bord du renvoi. Et pour être conservé dans l'école, ce qu'il doit faire, c'est faire un stage en Guyane. Donc lui, c'est le petit blondinet, des Mines de Paris, classique. Le gars, il sort un peu de nulle part, il se retrouve en Guyane, dans la forêt amazonienne, le mec.
Il s'habille en carhartt et il écoute du Tupac.
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu vois, pendant toute la saison, c'est des saisons de 8 épisodes, les séries Canal+. Tu vois la transformation de ce mec, qui à la base est un mec comme vous et moi, enfin en plus jeune, il a 20 ans.
Je suis polytechnique,
ouais, qui devient au final un orpailleur, mais de malade, quoi. Le gars, à la fin, c'est un sauvage, il a des histoires d'assassinat. Enfin, je vais pas spoiler, mais voilà, c'est vraiment une série que je conseille. Par contre, ça dresse un portrait de la Guyane qui fait assez flipper, moi, perso. J'y suis jamais allé, mais, mais là, j'ai même plus envie d'y aller, quoi. Donc,
D'ailleurs, en série Canal, alors je m'y mets un peu tard, mais j'ai commencé à regarder, et je trouve ça très cool, c'est Le Baron Noir avec Cadmerade qui...
Le Baron Noir, c'est une série que j'attendais la saison 2, là, qui est sortie en 2018, enfin, qui est sortie il y a 2 semaines. Et j'ai pas eu la patience de regarder les épisodes en direct, donc j'ai tous regardé d'un coup sur MyCanal, donc j'ai déjà fini cette saison-là. Et pour 2019, j'attends la saison 3 déjà.
Grouillez-vous, s'il vous plaît. Et juste pour revenir dessus, c'est vrai que c'est... Alors moi, j'ai regardé House of Cards, et moi je trouve que le système politicard américain, bon, on peut être hermétique à ce système puisqu'on est français, mais ça nous parle quand même à la fin. Mais c'est vrai que quand c'est traité en France avec des problématiques franco-françaises, dont un épisode de la saison 1, quand il traite des quotas pour les mecs qui sortent de bac pro, ouais, c'est extrêmement intéressant. Et c'est un sujet qui est fascinant. Et de la manière dont c'est traité, c'est ni dans les clichés, ni dans le
misérabilisme. Et même quand tu vois
misérabilisme.
Sur la saison 1, quand il fait de la récupération du petit jeune...
Le petit jeune rebeu pour les grèves. C'est exactement pour ce genre de sujet, ouais.
Ça, tu vois l'instrumentalisation de toute la politique, quoi.
D'ailleurs, grâce au Baron Noir, vous nous aurez pas, vous les politicards, on est trop chauds, on est 6, nous, on casse des gueules.
Mais juste, je ponctue sur ce truc-là. Enfin, je conclue, pardon, sur... tu parlais d'House of Cards. Moi, j'ai pas vu House of Cards, mais ce qui fait que je pense que je vais préférer le Baron Noir, c'est justement ça, c'est qu'en fait, c'est français et du coup, tu peux te projeter dedans en fait. Tu comprends les trucs
mais
directement.
On tombe pas dans l'écueil de. Alors moi, j'avoue, je suis pas autant fan des séries françaises que toi, mais je trouve que le problème de certaines séries françaises, c'est que c'est mal filmé. Là, je trouve que c'est cool, quoi. Tu sais, ils filment
pas. Mais c'est les séries de Canal. Enfin, faut pas regarder les séries sur TF1 sans être méchant, mais c'est vrai.
C'est le budget qui se derrière.
Honnêtement, toutes les séries de Canal, il y a pas de problème. Bah,
j'avais commencé à regarder Braco, c'est très brut, c'est moins. Là, tu vois, il y a des plans. Par exemple,
mais Braco, c'est plus ancien. Un peu,
moi, j'ai surtout regardé Maison Close. Excellente série de Canal. C'est la seule série de Canal que j'ai regardée.
Non, mais je l'ai pas vu.
Et Kadmerad joue super bien. Il est le trio qui compose avec Nils Astrup et je crois c'est comment il s'appelle la go là c'est
je me souviens plus, elle a un nom grec mais je me souviens plus de son
avec, ouais, sa, avec sa voix Mouglalis,
de,
Anna Mouglalis, je crois
sa voix de fumeuse
ouais. C'est ça ouais, franchement elle joue super bien. La série est très cool, voilà. Moi encore une fois, comme avec les films ou les séries ou la musique, je suis pas un homme d'expectative, j'aime bien les surprises. Et le Baron Noir, ça m'a bien surpris, ouais.
D'ailleurs, Kadmerad, très bon là-dedans, comme tu disais, qui a su s'enlever son image d'acteur de comédie moyenne.
Pour moi, Kadmerad, ça restera le gars de Cadet Olivier, ouais, qui fait une série de Jean-Michel. Et donc, Jean-Michel Fœtus, l'homme qui a un corps de 50 ans, mais une voix de nourrisson.
On voit les références.
Jeff, toi, ton attente pour 2018 en termes de série?
J'en ai pas spécialement. Après, il y a une série que je suivais et que j'aimais bien, c'est Orange is the New Black. Je sais pas si vous connaissez.
Ça fait partie des séries Netflix que j'ai regardées quand j'étais chômeur, mais j'ai décroché au bout de la saison 2 ou 3.
Il a trouvé un travail finalement, Sofiane, donc il n'y a plus de Netflix et les séries pourries maintenant.
C'est ça, voilà.
Donc voilà, donc on n'a pas encore de date et moi, je suis pressé d'attendre.
Et l'épisode avec ça. Nabila, c'est un peu le truc que je... dont tout le monde parlait pendant.
C'était pas juste la promo, elle est pas dans la série. C'est
si, 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 justement, elle apparaît.
Elle a apparu quelques minutes, hein, c'est tout. Ah
ouais. Ouais. Moi, j'ai pas. C'est sur la dernière saison.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai pas regardé la dernière saison, ça m'a saoulé.
Ouais, moi, ça m'a saoulé. Ouais,
c'est
aussi,
vrai qu'il y a quelques hauts et quelques bas. Non,
mais ça
autant la saison d'avant, elle était bien. J'ai bien accroché, mais la dernière saison, j'ai pas fini.
Mais bon, le climax de cette saison-là annonce du bon pour la suite.
Ah ouais.
Ouais.
Je vais reprendre alors.
Sinon moi pour 2018 j'attends pas vraiment de série parce qu'il y a Game of Thrones qui va arriver en 2019, mais en fait j'aimerais juste parler enfin j'aurais une question pour vous, mais je vais d'abord parler d'un coup de gueule, c'est MacGyver, le truc qui a tout défoncé, c'est trop
1989.
De la merde. Non, pas la série avec Richard Dean Anderson, mais la nouvelle qui est une pâle copie de l'ancienne série qui est culte. Et pour moi, MacGyver, c'était bien dans les années 80 quand il y avait pas la technologie et internet et plein de trucs un peu bizarres.
Surtout
qu'on a aujourd'hui, bah ça marche plus quoi.
On peut plus ouvrir des portes avec de la vinaigrette quoi les gars. Donc à un moment donné,
faut arrêter.
Voilà, chiate, c'est quoi. Ça, c'est qu'aujourd'hui le vrai MacGyver contemporain, s'il y avait vraiment un MacGyver contemporain, il serait ce serait un hacker qui est Tokyo. Ce serait un truc comme ça, mais en tout cas ça marche pas du tout parce que là le mec il est accompagné dans la nouvelle série d'un mec qui aime les armes, alors que MacGyver à la base n'aime pas du tout les armes, et surtout d'une hackeuse, tu sais pas d'où est-ce qu'elle sort, mais elle est là pour pirater, elle pirate des feux rouges, des caméras et des fours à micro-ondes.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une deuxième saison quand même.
Et il y a même la troisième en fait, ça marche, c'est bizarre mais ça marche. Et du coup j'ai une question, qui a regardé Sense8?
Moi j'ai regardé quelques épisodes, ça m'a saoulé assez rapidement.
Je connais pas.
Ouais. Bah ouais, moi ça m'a vraiment saoulé avec... la réalisation est excellente, techniquement c'est une tuerie. Mais
non, mais
putain,
c'est
que le scénario,
beau,
il a chié quoi. Ouais. Parce que un policier blanc, une coréenne qui fait du kung-fu, il y a quoi? Il y a un black qui est fan de Van Damme. Mais
c'est vraiment
des clichés.
Et dans la mer, à le sida, c'est.
Ouais, c'est ça.
Cliché cette série.
Et puis il y a une lesbienne dedans qui est à San Francisco, je crois, ou à Los Angeles. En Californie en tout cas. Mais vraiment, enfin.
Fallait satisfaire toutes les catégories de la population.
Ah, mais c'est ça en fait. C'est tout le monde.
Des statistiques, ils ont fait on va les faire.
Non mais là c'est le mec enfin je trouve que c'est vraiment abusé, enfin c'est pas du tout intéressant, mais ça vise ça a au moins le mérite de viser un large panel de personnes et d'être bien réalisé.
D'autres personnes ont des choses à rajouter?
Ouais, mmh. Non, par contre, non, ouais. Par contre en termes de films, peut-être des petites attentes 2018.
Non, moi perso j'attends rien en 2018.
Black Panther avec la avec
oui.
Le
oui, ah oui
oui. Black ah, Panther avec la BO qui me semble tabasser des épaules et
voilà.
des
voilà, j'attendais rien et
Et Ronald a créé ce que j'attendais. Voilà.
Moi, ce qui me choque sur Black Panther ici en France, c'est qu'il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de promo.
Ah ouais. Moi, ça me surprend pas
personnellement. Mais... Oui, bon, ça me surprend pas, mais c'est quand même fou.
Oui,
C'est fou. Ça me surprend pas, mais c'est
d'ailleurs,
fou.
Mais d'ailleurs, tu fais bien le souligner parce que ça traduit beaucoup de choses à ce que tu viens de dire, je pense.
Ben oui, ça traduit. Bah,
mais nous, on va en parler
fait,
ce film.
Ils ont fait comment en Chine? Parce qu'en Chine, d'habitude, sur les affiches, ils sont surtout les personnages noirs. Mais là, il y a que des noirs dans Black Panther. Ils ont fait comment pour l'affiche, je me demande, tu vois.
Là, il n'y a pas d'affiche.
Ils ont pas fait.
Au moins, en France, l'affiche, c'est une pancarte noire. C'est une pancarte.
Non, mais semble qu'en France,
ils ont mis des blancs à la place.
En France, nous, on met pas les affiches, tu vois.
Ouais, mais en France, on
met pas. Mais je pense que ça va arriver, là.
Alors, autant aux États-Unis, je trouve qu'il y a une effervescence de ouf. Parce que dans la bande-son, t'as Kendrick Lamar, t'as des grosses têtes.
Ouais, t'as tout TDI, en fait. T'as la vraie direction artistique, t'as tous les artistes TDI, t'as des gros feats, parce qu'il y a un gros feat Kendrick et Travis Scott, je crois.
On peut en parler, mais Marvel qui enfin met en avant un super-héros black, Renoir, ça fait plaisir, quoi.
Mais ça souligne aussi un peu le retard qu'il y a sur pas mal de choses.
Alors, je viens de trouver l'affiche en chinois de Black Panther sur Google Images, et effectivement, c'est juste le mec...
Son buste.
En fait, on voit... Non, c'est le mec avec la combi, mais on voit rien, ses yeux sont juste blancs. Mais on sait pas que c'est un noir ou un blanc.
Mais ça m'étonne
Asiate.
Pas, parce que sur Star Wars, ils avaient John Boyega, il avait censuré. C'est systématique en Chine. Les personnages noirs, ils disparaissent des affiches.
D'ailleurs, ça me rappelle la publicité chinoise où t'as l'adepte. Ouais, c'est ça. le black qui sort dans la machine et puis hop, elle fait tourner. Puis il y a un Asiate qui sort, enfin un chinois. Et là, tu dis
Sinon, y a un film qui doit sortir cette année, je crois, mais ce sera encore une fois une exclue Netflix. C'est un film avec trois des acteurs les plus... mythique de l'histoire du cinéma mondial.
Dwayne Johnson.
Non. Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Le trio va être réuni pour un nouveau film.
C'est pas un Spielberg ou un truc. Non.
Non, c'est un Scorsese.
Un Scorsese.
Puis quand tout à l'heure on parlait de Pacci, là ça sent le bide. Hein. Perso, tu m'envoies ça.
Ouais. En fait, moi j'ai vu le film. C'est tellement des gens qui veulent faire un film qui est sur des années 80.
Ça fait vieux beau, c'est ça.
Ouais,
C'est... Vieux beau sur le retour.
Ouais, voilà, t'es... Les mecs, ils sont en canne et tout.
Tu l'as vu?
Ils vont jouer les gants.
Il s'appelle Altered Carbon. Non, c'est pas celui-là, c'est comment le film qui sort
Je sais pas, j'ai vu l'affiche, mais moi, ça m'a rien dit, tu vois, pour le coup.
Bah, pour le coup, alors, moi, je suis pas d'accord par rapport à ce que tu dis sur la comparaison avec Pacci et tout, c'est que. Enfin, Pacci, il revient, il fait les mêmes hits qu'avant. Tu vois le délire ou pas?
Mais après, c'est
alors plus, que là, c'est un nouveau film.
C'est plus dans la célébration, en fait. Pas si c'est dans la célébration.
Voilà, alors que
là,
De Niro
classique, tu vois.
Pacino et Joe Pesci, qu'on a vu former du putain de. Alors d'ailleurs, j'ai pas le souvenir d'un film où les trois sont réunis. Normalement, t'as dans Les Affranchis, t'as De Niro et Joe Pesci. Dans Hit, t'as De Niro et Pacino. T'as aucun film où t'as les trois.
Ça fait combien de temps qu'il a. Enfin, je me trompe peut-être, mais qu'il a pas sorti un truc, Joe Pesci. C'était quand
Joe Pesci, il fait plus trop de films.
Maman, j'ai raté l'avion. Sérieusement, ça fait que pour tout. Il fait plus combien de... Enfin, tu vois, c'est ça que je veux dire.
Ça fait un peu.
Les mecs qui ont fait la prod, ça fait un peu. Voilà, on va les réunir les trois.
C'est le carré.
Et on cherchera un scénario.
Ouais, et
c'est
le carré, maman.
Ouais, mais à la manœuvre, c'est Scorsese quand même.
Oui, mais c'est pour ça que je parle de carré magique. Ça fait un peu genre un carré magique. Tu dis, c'est une formule qui marche toujours.
Et pour revenir sur le cahier des charges, là, j'ai l'impression que les mecs, ils ont coché des cases du
Big Bang. Bah oui, exactement.
C'est ça que je veux dire, en fait.
Moi qui suis un fan absolu de films de gangsters, j'ai jamais vu des films qui sont à la hauteur des films où il y avait ces trois. Au moins deux de ces protagonistes.
C'était quand?
Ouais, mais en fait, les films, ils étaient sortis à l'époque, ils étaient dans la dynamique.
Ah, mais attends, mais c'était quand ces films? Ils datent de quand aussi?
Ouais, mais pour moi, c'est pas révélateur. Tu peux très bien faire un film maintenant de gangsters, avoir ces acteurs-là. Et faire un bon film. Pour moi, il n'y a pas de règle. C'est pas parce que tu as fait ces films. Je suis d'accord, c'est il y a longtemps, il y a 20 ans. Mais pour moi, c'est pas des. Il y a pas d'attache au.
Moi, j'attends de voir. Je te dis pas que. Mais honnêtement, comme ça, ça m'envoie pas du rêve, quoi. Là, je me dis, putain, les mecs, comme disait Seb, ils ont fait un cahier des charges. Ils ont dit, on va les réunir. Et ça fait un peu truc marketing à la mort, quoi.
Après, moi, je suis.
Après, cahier des charges, c'est pas forcément péjoratif.
Oui, c'est pas forcément péjoratif. Et après, je suis quand même. D'accord avec toi, Ronald. J'attends de voir ce que ça va donner, tu vois. On peut toujours être, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Voilà, c'est ce que je me dis.
Moi, c'est ça.
Voilà.
On verra.
Oui, c'est ça.
Bah, je pense qu'on a fini, on a fait le tour pour cette deuxième partie. On va se retrouver dans la troisième partie où on va un peu parler de un peu de tout, de nos coups de cœur.
Non, sinon on peut le faire maintenant. Enfin, on peut maintenant. Je sais pas si chacun a un livre ou un jeu, un sujet à évoquer.
Oui, on peut faire ça. Moi, je voulais revenir sur trois bouquins que j'ai découvert en 2017. Donc t'en as le premier, c'est un livre de Mehdi Maizi. Donc c'est Rap français, une exploration en 100 albums. Donc c'est un peu chronologique et du coup ça, il reprend les classiques un peu du rap français et il fait une petite narration dessus en expliquant en revenant sur les titres un peu marquants. Donc c'est un livre que j'ai découvert cette année et qui m'a beaucoup marqué. Et les deux autres livres, donc c'est un livre, ça va pas trop vous étonner, sur la sneakers, qui s'appelle Out of the Box, The Rise of the Sneakers Culture. Donc c'est un livre qui retrace un peu l'histoire autour de la sneakers, et le fait que ça soit maintenant un objet pour certains et une façon de revendiquer des choses ou pas pour d'autres. Et le troisième livre, c'est un livre qui est rétrospectif un peu de tout ce qu'a fait Hiroshi Fujiwara, donc le fondateur de Fragment Design. Et c'est un livre qui reprend un peu tout ce qu'il a fait de plus innovant en termes de création. Donc Hiroshi Fujiwara, c'est un designer qui a beaucoup travaillé notamment avec Nike sur des produits exclusifs. Donc il fait partie du trio HTM, donc Hiroshi, donc il y a Tinker Hatfield et le troisième qui est Mark Parker. Et donc voilà, donc c'est un livre qui retrace un peu tout ce qu'il a fait avec cette marque iconique du streetwear. Donc voilà.
Ensuite,
moi, ouais, en termes de livres, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé des deux livres d'Eddie Wang, Fresh Off the Boat et Double Cup of Love. On peut en reparler. C'est des livres sur des gars qui ont des vies un peu similaires aux nôtres, mais aux États-Unis. Modern Romance de Aziz Ansari, pareil, on va en reparler. Et un des livres que j'ai lu en 2017 qui m'a beaucoup marqué et qui a aussi motivé mon envie de bosser sur ce projet, c'est Shoe Dog de Phil Knight. Phil Knight, c'est le créateur de Nike. Et en fait, il a écrit ce livre en forme un peu de mémoire et de réflexion autour de son rôle en tant que créateur et qu'est-ce qu'il a, comment il a vécu cette aventure chez Nike. C'est un livre, c'est un très très bon livre de business pour tous les fans de livres qui concernent un peu la stratégie, la réflexion autour de comment s'entourer. Et c'est aussi un livre sur le rapport humain au business, parce qu'on se rend compte que sa famille, en fait, elle a eu à pâtir un peu de son ambition et de ses envies de devenir un entrepreneur qui réussit à faire marcher son truc, quoi. Et donc, du coup, voilà, un super livre, riche en enseignements. Et ce qui est cool dans ce livre, c'est que Phil Knight, il a cette tendance, comme Phil Jackson, à faire des références multiculturelles, on va dire. Il parle de tout, en fait. Il cite des auteurs de religion. Et c'est clairement un livre à lire, ouais.
Et je pense que c'est clairement un livre à lire que j'ai pas encore lu et que je dois lire. Et c'est surtout donc un livre qui est souvent, très souvent cité par des gens qui sont dans le business, que ce soit le vêtement, la basket ou etc. Et parce qu'il revient sur des choses qui sont un peu importantes, des règles un peu à suivre, dont un passage, je crois, dis-moi si je me trompe, Ronald, où il parle de comment traiter avec des Japonais.
C'est important du livre d'ailleurs.
Donc voilà, même dans la façon de voir le business, c'est un livre qui est hyper important.
Yes. Et pour conclure, parce que les caméléons, c'est aussi des gros gamers.
J'ai un livre aussi.
Ah, t'as un livre.
Ah bah attends.
Sofiane, il est là.
Bah ouais, faut pas oublier. Mais ouais, en fait, moi, il y a vraiment un livre qui m'a chauffé de ouf. C'est La Grande Guerre pour la civilisation.
de Robert Fisk, qui est un grand reporter anglais. Et en gros, dans ce livre, qui est un gros pavé, qui il couvre tous les événements du Moyen-Orient de 79 à 2005. Hein, donc c'est la guerre soviétique en Afghanistan, c'est la guerre au Liban, la guerre Iran-Irak, toutes les guerres où t'as eu les Américains ou le conflit israélo-palestinien. Et c'est vraiment un livre assez intéressant. En fait, il explique déjà les coulisses et la manière dont il a couvert ces événements, mais il donne aussi une nouvelle analyse qui est assez critique de ce qui a été fait dans les journaux ou autres analystes. Donc voilà, c'est vraiment un livre à regarder. Ça vous permet de mieux comprendre le Moyen-Orient et ses évolutions durant 30 années.
C'est un livre un peu making-of, quoi. C'est ça
C'est à la fois du making-of, mais derrière, en fait, il fait une rétrospective sur les événements qu'il a couverts. Vraiment, il y a beaucoup d'analyses où à un moment il explique comment il a rencontré Ben Laden. C'était le premier journaliste blanc à avoir rencontré Ben Laden, et ça, c'est vraiment intéressant. Il t'explique un peu les coulisses de cet événement-là. Et donc voilà.
Et puis, il est un peu, il humanise un peu Ben
Oui,
Laden,
c'est ça, ça oui, c'est ça. Pendant un moment où le moment où il rencontre Ben Laden, il en fait une description, c'était au Soudan. Et à la fin de la description, t'as envie de dire, putain, mais en fait, il est sympa, ce mec-là, il est cool.
Mais il le rencontre à quel moment? Au moment où il est encore ami avec les Américains ou...
Alors justement, c'est un peu un entre-deux où tu sais pas encore, parce que, en gros, Ben Laden, après la guerre en Afghanistan, il est parti au Soudan, parce que le roi d'époque avait un peu peur de lui, ce qui est un peu compréhensible, et du coup, en fait, c'est le gouvernement soudanais qui l'a accueilli. Et à ce moment-là, Ben Laden, ce qu'il te dit Robert Fisk dans le livre, c'est que il construisait des logements, des écoles à titre gratuit pour les soudanais. Et effectivement, en fait, c'est
gaffe à ce que tu dis, toi.
Ouais, mais apparemment, Ben Laden a fait beaucoup de choses assez positives, a beaucoup contribué au développement du Soudan. Et c'est là où c'est à ce moment-là qu'il rencontre Robert Fisk, où il explique, où il en fait un peu, pas vraiment une éloge, mais plutôt une description assez positive.
Ben Laden, c'est un peu Harvey Dent, en fait.
C'est
Harvey Dent dans Batman, c'est le gars qui est procureur, qui peut devenir maire et qui vire mal et devient double face.
Ah oui, Ben Laden, ouais, c'est un peu ça.
Vous
c'est
avez
un
pas
peu
regardé le meilleur Batman
de ouais, ça. Là, il y a des gifs qui se préparent, là. Hein. Ouais. Dark Knight, c'est un film, non seulement un film extraordinaire, le meilleur film de super-héros, mais c'est aussi un très grand film de cinéma.
Comment switcher d'un livre sur du Moyen-Orient à Batman? C'est ça, on switch d'un sujet à l'autre pour apporter une analyse assez intéressante et inédite. Donc voilà, non, c'est bon, j'ai terminé pour mon livre.
Tu me laisses switcher sur mes geekeries?
Hein?
Tu me laisses switcher sur mes geekeries de geek?
Mais vas-y. Mais...
Alors,
fais-toi plaisir.
Alors, moi, grand fanat de jeux vidéo, hein, on se refait pas. Et cette année, j'ai joué à deux jeux qui m'ont marqué, particulièrement Zelda. Bon, Zelda, je crois que j'ai pas à décrire ce jeu qui est sorti sur Switch, la console qui a changé le monde des jeux vidéo à tout jamais, parce que pouvoir jouer aux toilettes à Zelda et se balader en Hyrule entre deux lâchages de colis, c'est extraordinaire déjà.
Et Zelda. Ronan me l'a prêté, moi je l'ai trouvé un peu chiant. Faut quand même le dire.
En fait, le jeu, c'est fou parce que le jeu, t'es dans l'exploration, tu kiffes, t'as plein d'idées de gameplay qui sont particulières et nouvelles. Mais c'est vrai que l'identité, le scénario, tout ça, c'est absent. Et...
Ouais, voilà.
C'est ça. Non, mais après, c'est un truc c'est un truc aussi qu'on aime dans Zelda, tu vois.
Oui, si t'es fan là du concept. Un peu voilà, enfantin.
Oui, c'est ça en fait.
Tu peux adhérer, ouais.
C'est la légende, tu vois. C'est le truc légendaire. Après, je peux comprendre. On a quelqu'un qui se fait chier.
Moi, c'est vrai. Non, mais moi, tu vois, j'ai
vraiment rentré dans le truc, tu vois.
Alors moi, c'est vrai que
peut-être pour rentrer dans le truc.
Moi, je suis comme Bonaka. C'est vrai que
j'ai dû jouer 5 heures.
Moi, je l'ai fini le jeu. Je l'ai fini. Je m'entends. J'ai fini la quête principale, on va dire. Et j'étais déçu par le scénario qui est inexistant. Par contre, l'univers, les idées de gameplay, la manière de faire évoluer les choses dans ton environnement immédiat, tout ça, c'est des idées purement Nintendo. Il n'y a aucune place aux détails, tout est réfléchi. Mmh. Ça, c'est très fort. C'est vrai que par contre, il est un peu en décalage par rapport aux open world sortis dernières années. Pour moi, le meilleur jeu...
Même aux autres Zelda, parce que là, je pense à Ocarina of Time, par exemple, tu vois. Franchement, le truc était carré. Ocarina, tout est carré, tu vois.
Il a tout cassé, Ocarina. Mm. Et c'est vrai que
le problème de Zelda, c'est que sur une époque où tu as des jeux comme The Witcher, donc The Witcher 3, le meilleur jeu des 5 dernières années, qui a marqué l'open world à jamais, qui ont une identité très mature, très adulte, et le scénario est très, très léché et c'est très fort. Zelda, c'est pas ça. Zelda, c'est autre chose. Après, on adhère ou pas.
Peut-être c'est ça le problème. C'est moi, je vais dire, la dernière Nintendo que j'ai eue, c'était une GameCube, tu vois.
Ouais.
Je pense qu'on a
pareil.
On a quitté l'univers Nintendo, ça fait trop longtemps, on est passé à des trucs vraiment matures. Ouais. Et revenir sur du Zelda, c'est un peu dur.
Totalement d'accord.
Mais du coup, la grande question, pourquoi on a quitté l'univers Nintendo ?
Moi, du siècle, c'est de la violence, mec. Merde.
Ouais, non, ça, c'est enquête exclusive. Mais,
sans faire le mytho, il y a un aspect qui est important. Alors, c'est mon point de vue. Et aujourd'hui, tu vas avoir une distinction en termes de gamers, les casual gamers et les hardcore gamers. Les hardcore gamers, ils vont chercher un challenge dans un jeu. Ils vont chercher la difficulté. T'as les Dark Souls, Nioh qui sortit l'année dernière, qui va t'amener ça. Et t'as les casual un peu. Moi, je suis entre les deux. Et dans ce registre-là, je cherche plutôt les scénarios.
Je joue jamais.
Ouais. Les scénarios, les personnages, les idées de gameplay aussi. Mais je suis pas dans la recherche permanente du gameplay extraordinaire. Moi, je cherche un univers et tout cet aspect-là. Zelda te le propose en partie parce que l'univers,
Zelda le fait très très bien, c'est pas la question.
Le scénario tu l'as pas, le gameplay tu l'as, mais c'est vrai que quand tu le compares à un autre jeu sorti il y a quelques mois, Assassin's Creed Origin, ouais, qui est un open world très très bien foutu avec un univers qui est très bien, le scénario il est pas extraordinaire mais il est intéressant. Là clairement tu te rends compte que oui, ça c'est ce que tu cherches quand t'as 30 ans.
Oui bien sûr, après je pense que pour nous ça peut devenir très vite obsolète. Mais c'est aussi ça éveille ce côté très nostalgique.
Oui, oui,
parce qu'on a grandi avec Nintendo, on a grandi avec Zelda, tu vois.
Ouais, mais ce que j'allais dire, c'est que Nintendo a quand même pas mal évolué entre le moment où nous on était au lycée, enfin au collège, hein. Avec l'arrivée de la GameCube, ça c'était pas, c'était la dernière grande console. Après, il y a eu la Wii, et ça, la Wii, elle a changé. Non, mais faut pas oublier que la Wii, elle a quand même changé tout le concept de Nintendo.
Non, mais en termes de.
Et là, ils sont attaqués à un public bien plus large que les gamers.
Ouais, mais là.
Que les gamers Zelda, auparavant.
Le scénario, c'est. Il faut sauver la princesse Zelda.
Bah, c'est comme Mario.
Et à la fin, c'est ça. C'est-à-dire que le scénario, c'est il faut sauver la princesse Zelda.
Oui,
l'histoire est terminée, tu l'as sauvée.
C'est le leitmotiv.
Bah, c'est comme Mario, c'est normal.
Elle est un peu débile, la princesse Zelda.
Bah, commence à faire chier un peu.
À tous les coups, tu vois.
À chaque fois, elle se fait attraper, putain, merde.
Bah ouais, franchement.
Ça se trouvait, c'était un peu longtemps.
Et voilà, donc, vous l'avez compris, Assassin's Creed, il m'a fait kiffer. Merci Ubisoft d'avoir enfin eu le temps de développer un jeu crédible. Et
non mais ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti un bon Assassin's Creed.
Et là, en plus,
le héros,
c'est un Égyptien, et l'histoire se passe en Égypte. T'es en train de balader dans l'Égypte où il y a Jules César qui veut s'attraper Cléopâtre, et tu rencontres Cléopâtre. Là, franchement, super jeu. Merci Ubisoft d'avoir enfin sorti un Assassin's Creed qui m'a fait revivre mes meilleures années Assassin's Creed.
Et pour parler d'un retour, moi je veux bien parler de Call of Duty World War 2.
Apparemment, c'est une tuerie celui-là.
Qui est un retour à la base de Call of Duty, nerveux comme on est. Il n'y a pas encore le couteau. Il faut que le couteau revienne parce que.
Ouais, mais c'est parti un peu en sucette quand même dans les derniers Call of. Hein,
oui, non, mais c'était devenu du n'importe quoi avec les délires futuristes.
Ouais, c'était devenu Halo quoi.
Avec les exosquelettes.
Ouais, c'est quand même tuerie.
Ouais, mais c'est pas le même registre.
Oui, c'est pas le même registre, c'est pas la même chose, c'est pas ce que tu cherches quand tu joues à un Call of. Et
là, du coup, soldat.
Et là, ils sont revenus à ce qu'on aime, et voilà, tu
cours. Ah, c'est barbare là. Et t'as une pelle, non? T'as une pelle, je crois, à un moment.
Et c'est ça, t'as peur, tu cours, tu sais pas si quelqu'un va te buter, s'il y a un sniper. Et là, tu retrouves le Call of qu'on aime, tu vois.
Et du coup, j'ai une question, est-ce que t'as toujours les snipers bien relous qui jouent, enfin, tu vois, les mecs qui jouent avec le sniper?
Qui se cache dans un coin ou qui joue et court avec le sniper.
Ouais, les mecs qui courent avec le sniper et qui te mettent des one shot à 2 mètres
les mecs comme ça arrivent à faire, mais c'est des mecs qui je joue avec un mec comme ça aussi, c'est un mec, c'est un fou dans sa tête.
Ouais.
Il joue qu'au sniper, mais à peine il te voit, il te dégomme, tu vois, c'est.
Ouais, mais ça bousille le jeu, ça, non?
C'est
franchement, moi ça,
ils
essaient de frustrer,
ils essaient d'équilibrer, mais
bah équilibrer quoi, enfin
d'équilibrer entre les classes.
Ouais, mais c'est quand même chiant quand toi tu cours comme un con, t'as un Beretta, le truc le plus simple pour viser, le mec avec le sniper il t'a en un coup.
C'est difficile hein, mais c'est le jeu.
Et du coup, sans transition, mais mon attente majeure 2018, je pense que comme beaucoup, c'est Red Dead Redemption 2. Sors vite pour que j'arrête de vivre.
Ah oui.
Oh là là, le premier déjà, il m'avait c'est dans mon panthéon de mon top 5 des meilleurs jeux de ma vie. Point.
Il n'y a pas à débattre.
Y a rien. Bah, moi, je suis une des seules personnes au monde à avoir une Xbox One. Du coup, je peux encore jouer au jeu de 360. Donc là, j'ai repris récemment l'ancien, le
Putain,
premier.
Putain, mais quel jeu.
Et c'est un kiff. C'est toujours un kiff de jouer à ce jeu, tu vois, du coup.
Tout est extraordinaire dans Red Dead Redemption.
Tout est carré.
Et j'espère qu'ils vont reproduire le même effet et me faire frissonner comme jamais.
Moi, je retiens juste quelque chose, les gars, c'est que vous n'avez pas parlé d'NBA 2K. Je suis assez déçu.
Ouais, moi, je suis pas un grand fanat du
KZ. C'est pas que je suis pas un fanat, je suis nul à NBA 2K.
Bah voilà, les gars, putain, il y a des tutos sur internet, il y a des trainings, les gars. Entraînez-vous, merde.
C'est le genre d'histoire où t'as tellement raté de train que tu pourras jamais avoir un train.
Non, mais après, c'est que le truc qui est bien avec 2K, c'est que t'es pas obligé d'avoir joué au précédent pour pouvoir jouer au nouveau, quoi. Il y a des trucs qui changent, le mode carrière change.
Déjà, je me souviens quand j'avais téléchargé le jeu, parce que je suis un rat de pie, il y a quelques années, je m'étais créé avec ma taille réelle. Je suis pas petit pourtant, mais dans le jeu, j'étais un petit PD. Hein. Je me baladais.
Bon, bah, ça, c'est autre chose. Si tu te bases sur la réalité, ça c'est autre chose.
On peut en débattre longtemps.
On peut faire un podcast. Sur
mais j'ai fait un joueur d'1m86, 87 quoi. J'étais
un petit meneur.
J'étais le plus petit. Non, même pas. Je voulais jouer shooting guard. Tu vois le délire.
Oh là là, putain.
Mais je servais à rien. Ok.
On a fini, je pense.
Oui. Ouais.
Ouais, je crois qu'on a fait le tour de tous les sujets et apparemment il y a pas mal de trucs qui sont sortis l'année 2017 et il y a pas mal de choses aussi qu'on a déterré des années précédentes et qu'on attend aussi pour l'année 2018 et 2019.
J'espère qu'il y aura plus de jeux sur Switch parce que j'ai investi 300 euros
dessus. Ouais, moi pareil.
Faut arrêter les conneries.
Les jeux adultes surtout.
Nintendo.
C'est à nous.
Voilà. Je pense qu'on a fini pour ce podcast culture. C'était la première, c'était
la première mal. Et un peu, ouais, un peu à l'arrache.
C'était un peu à l'arrache, c'était un peu brouillon, mais...
C'est le but.
J'espère que vous avez aimé.
C'est comme le premier album de Wu-Tang, ça sent la crasse, mais on est bien.
Ouais, voilà, tu vois, tu sens le potentiel dans le truc.
Voilà.
Ouais, c'est bon, ça va les chevilles. Ouais, on pourra du potentiel. Ouais,
tout va devenir carré.
C'est bon.
Ouais, c'est bon, on peut arrêter là.